Alors, Éric Lantier est là. Éric Lantier, comment ça va?
Pour moi, ça va bien, mais pour bien des femmes au Québec, ça ne va pas très bien.
Bon, alors, c'est encore la violence conjugale?
Oui, mais je suis content parce que la ministre Isabelle Charrette, la ministre de la Condition féminine, veut prendre le taureau par les cornes. Et puis je vais rester poli en utilisant cette expression-là. Et je suis bien fier d'elle parce que, d'une part, elle ne veut pas jeter du revers de la main le plan des libéraux qui ont précédé la CAQ au pouvoir, mais elle veut du moins étudier des mesures qui ne sont pas nécessairement populaires, mais qui, à mon avis, seraient efficaces.
Alors, parmi ces mesures, entre autres, bon, alors on va camper déjà la situation. Je pense que tout le monde est bien édifié dans une relation de couple. Quelquefois, ça ne va pas et ça va très loin jusqu'à des coups, n'est-ce pas, portés contre surtout la plus faible, c'est la femme, etc. Il y a des plaintes qui sont portées et généralement, l'homme va être frappé d'une interdiction de fréquentation des lieux. On donne un rayon à l'homme de respecter, de ne pas fréquenter, n'est-ce pas, le lieu où habite l'épouse ou l'épouse, on va dire, ou la femme. Bon.
Oui.
Alors, parmi ces mesures, qu'est-ce qu'on a qui pourrait protéger davantage les femmes?
Oui, puis la raison, avant d'entrer dans les mesures, c'est que la raison pour laquelle on met un accent davantage sur les femmes, c'est pas parce que les hommes ne sont pas victimes de violence, mais les femmes sont les principales victimes. On parle de 78 %. Elles représentent 100 % des victimes d'enlèvement. Elles sont victimes d'agressions sexuelles à 97 % de séquestration,
oui.
À 97 % également, d'intimidation, 91 %, voie de fait de niveau 3, 88 % et d'harcèlement criminel, 87 %. Donc, les statistiques sont élevées et démontrent que ce sont les principales victimes de drames conjugaux ou de conflits violents à l'intérieur du ménage. Donc, pour répondre à votre question, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui est proposé, du moins, ça ne veut pas dire que ça va être appliqué, mais c'est discuté en ce moment. Une chose que je crois que tout le monde va être d'accord, c'est qu'on augmente le budget de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec. Maintenant, eux autres réclament 50 millions dans le réseau. C'est énorme, mais c'est important que le gouvernement fasse un pas là-dessus parce que c'est là que sont les ressources. C'est là que les femmes vont aller se réfugier. S'il n'y a pas de lieu pour se réfugier, les femmes vont demeurer victimes beaucoup plus longtemps, c'est clair. Mais là où est-ce que ça pose un problème, c'est pas dans le fait d'établir un mécanisme de collaboration avec les ressources pour créer une escouade de protection, mais ça, c'est deux choses. Un, le signalement obligatoire des médecins, parce que là, on touche justement le secret professionnel, on touche la confidentialité, on touche tout ce qui a trait aux droits individuels et l'imposition d'un bracelet électronique anti-rapprochement.
Donc, alors, maintenant, on parle premièrement de signalement obligatoire des médecins. On a une petite difficulté au départ. Il ne s'agit pas, exemple, lorsque un médecin reçoit des enfants en bas âge mineurs, avec des traces de brutalité, je crois que le médecin a l'obligation d'en faire état dans son rapport. Est-ce que c'est l'administration de l'hôpital qui va appeler et tirer les sonnettes d'alarme au niveau de la DPJ? Je ne le sais pas, mais c'est une obligation. Maintenant, lorsqu'on est face à des adultes, c'est une autre paire de manches.
Oui, oui, oui. Ben c'est là qu'on chevauche deux droits. La protection de la victime et la protection de la vie privée. Et c'est là que moi, j'aurais tendance, moi, je suis un fervent défenseur des droits et libertés individuelles, mais lorsque je regarde, par exemple, la sagesse que nous donne la Bible, elle nous dit, la Bible, que l'autorité civile, dans Romains chapitre 13, elle est là pour protéger la victime et pour punir le malfaiteur. Alors, je me dis, est-ce que dans ce cas-ci, s'il y a un soupçon, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, justement, dénonciation pour investiguer? Sans condamner, mais au moins, il dit, le médecin, j'ai un doute, la dame a un bleu, elle dit qu'elle a déboulé l'escalier ou elle s'est cognée dans la porte. Il y a un doute raisonnable. Mmh. Et là, il y a un signalement. Est-ce que...
Non, c'est infantiliser une adulte et je pense qu'on ne devrait pas avoir à se rendre là. Il y a une démarche qui est faite et qui est acceptée depuis nombre et nombre d'années. Autrefois, c'était une petite fantaisie, n'est-ce pas, que de tabasser sa femme et que la femme appelle la police et qu'elle porte plainte et le lendemain, on se dit des petits mots doux et puis la femme va à la police et retire la plainte. Ça se faisait de cette manière. Aujourd'hui, non. Vous allez, madame, suivre les procédures. Et tout ce qu'on veut savoir, là, est-ce que vous avez été obligé de retirer la plainte, etc., etc. Parce que dans une accusation au criminel, il faut avoir une victime qui supporte l'accusation.
Oui. Ça, je suis d'accord.
C'est-à-dire, on ne peut pas faire une cause sans victime pour demander d'accuser un bourreau, un criminel. Il n'y a pas de crime quand il n'y a pas de victime, d'une certaine manière. Ah, donc, il faut s'assurer de la collaboration de la victime. Et si la victime ne joue pas le jeu, là, je vous assure, là, c'est pas gagné d'avance. Là.
Non, ça, je suis d'accord avec vous. Mais advenant le cas, par exemple, qu'un médecin a un soupçon raisonnable, il fait une dénonciation. Un enquêteur vient et questionne la dame en question et la dame refuse de porter plainte. Là, la dénonciation n'a plus d'effet.
Alors, nous avons un système de justice qui coûte déjà très cher et qui n'arrive pas nécessairement de donner satisfaction à ceux qui en ont véritablement besoin. Maintenant, plutôt que d'essayer de tâtonner, parce que si la personne veut, majeure, vaccinée, veut porter plainte, elle sait qu'elle doit porter plainte, qu'elle va avoir le support de tout le système pour porter plainte. Mais maintenant, plutôt que de déléguer quelqu'un pour aller voir éventuellement si cette personne pourrait changer d'idée, parce qu'avec le médecin déjà, la personne pourrait s'exprimer clairement. Oui, je veux porter plainte. Mon mari m'a battu. Si vous pouvez m'aider, est-ce qu'il y a une maison ou enfin un système au sein même de l'hôpital qui pourrait m'aider? Ça serait déjà très une bonne indication à l'effet que la personne veut porter plainte. Mais une personne qui ne veut pas porter plainte, là...
Oui, mais c'est parce que c'est ça qui est le problème, c'est que la majorité des femmes ne portent pas plainte. Elles se sentent intimidées et c'est pour ça que la ministre de la Condition féminine cherche à trouver des moyens pour dire comment est-ce qu'on peut amener plus de femmes à être mieux entourées, à justement avoir recours à des ressources pour ne pas être victime de plus de violences et éventuellement être victime d'un meurtre. Et c'est là que je suis très conscient que cette proposition-là, elle est délicate, elle n'est pas la solution parfaite, elle est coûteuse, mais il faut avoir ce genre de débat pour améliorer justement la protection de ces femmes qui sont victimes. Et je crois que le bracelet électronique anti-rapprochement, par contre, est un moyen s'il y a déjà eu, et un homme, par exemple, a été reconnu coupable, il a commis des actes de violence, de cruauté, il a battu sa femme, il a été violent d'une manière excessive avec ses paroles ou de différentes façons, et que là, la cour a tranché, qui a dit « vous ne pouvez pas vous approcher de votre épouse ou de votre ex-épouse », Mais là, avoir un bracelet comme ça, ça pourrait assurer une protection. Et ça, j'aurais tendance à être à l'aise avec ça.
Oui, mais est-ce que ça prendrait deux bracelets qui, s'approchant, lanceraient un signal? Je ne sais pas, parce que, bon, jusqu'à présent, on se servait de ces bracelets-là pour autre chose, n'est-ce pas? Mais maintenant, si c'est pour ne pas franchir un certain seuil, parce qu'on peut rencontrer madame à l'épicerie aussi, là. On peut rencontrer madame ailleurs. Et donc, oui, il faut étudier les mécanismes devant permettre, mais je pense très sérieusement que la meilleure démarche à faire, c'est de conscientiser un peu tout le monde, autant les hommes que les femmes, parce qu'il y a malheureusement de ces femmes-là qui tombent toujours sur des batteurs de femmes. Après un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre, n'est-ce pas? Donc, il y a un véritable problème. Et puis, le premier coup, c'est déjà un coup de trop. Donc, il ne doit pas y avoir un deuxième coup. Et ça, seule la femme peut décider.
Vous touchez le point. C'est justement, déjà, le premier coup, c'est un coup de trop. Et lorsqu'il y a récidive, ou lorsque le mal...
Il ne doit pas y avoir de récidive. Elle doit quitter au premier coup, Eric.
Oui.
Ça, là, la femme doit le savoir.
Mais c'est pour ça qu'on a besoin de plus de lieux d'hébergement, de développer des communautés qui sont plus accueillantes. Parce que auparavant, lorsque le Québec était rempli de petits villages, mais les gens s'accueillaient, s'hébergeaient, se protégeaient. Mais aujourd'hui, dans une société beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus impersonnelle, on a besoin de ressources artificielles comme des maisons d'hébergement, parce que sinon, les femmes vont aller où? Dans la rue. Et c'est là qu'est le problème.
Merci beaucoup, mon cher Éric Lantier. Il faut faire des chroniques comme ça, plus de chroniques comme ça, plus de cours, même à l'école primaire. Les femmes doivent avoir l'instinct de se protéger. Hein?
Bon. Absolument.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir. 17h33 minutes. On s'en va à la pause commerciale. Au retour, professeur Wilson de Saint-Elmy sera avec nous.